Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Anissa Haddadi. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Merci de profiter de ce jour férié. Vous êtes peut-être sur la route, on vous accompagne. Il y a des bouchons aujourd'hui, ils annoncent orange sur les routes.
On est là
pour vous accompagner, toute l'équipe de Culture Média avec nos deux indispensables du jour qui nous ont rejoints. Joe Hume pour la musique.
Et bonjour.
Et Sacha Nokovic pour le sport.
Salut à tous.
Salut à tous les deux. Et quel bonheur ce matin de recevoir l'un des auteurs français les plus lus au monde. 30 millions de livres vendus dans le monde, de la trilogie des fourmis, le cycle des anges ou encore récemment le temps des chimères, pour ne citer que cela, parce que sinon il serait déjà 11h si on parle de tous vos livres. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour Anissa.
Merci d'être là en direct ce matin en ce jour férié. Alors vous venez nous parler non pas d'un livre, mais d'un voyage intérieur sur scène ce matin que vous proposez à tous ceux qui viennent vous voir. Mais avant d'en savoir plus sur ce spectacle très original qui nous fait réfléchir, qui nous fait poser beaucoup de questions, puis il y aura une histoire de citron aussi, enfin on va détailler tout ça. Bernard, je vous propose de dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, voici le premier. Difficile hein, d'interrompre la nocturne numéro 2 de Chopin en mi bémol.
Ça pose tout de suite une ambiance.
Ouais, ça pose une ambiance, effectivement, ce matin. Vous savez pourquoi on vous passe du Chopin?
Maman qui jouait, qui était prof de piano.
C'est votre maman qui jouait du Chopin. Et vous dites que ces notes-là que vous entendez, ou du Chopin de manière générale, sont les souvenirs plutôt flous, les plus anciens qui vous reviennent?
Ma mère, toute la période où elle était enceinte, jouait du piano tout le temps. Et je pense que c'est bien pour un fœtus d'écouter de la musique. En tout cas, j'étais nourri de musique et je pense que ça m'a donné une perception du son. C'est-à-dire la musique m'apporte des sensations très très fortes.
Donc ce sont des sensations qui viennent de cette époque-là, de cette époque fœtus, mais vous n'en avez pas de souvenirs, rassurez-moi. Arrivez à faire des choses quand même extraordinaires, Bernard Werber.
Mon plus ancien souvenir, c'est que j'étais à quatre pattes près des pieds de ma mère qui jouait avec les pédales du piano, et elle m'a fait un signe de ne pas m'approcher des pédales parce qu'elle avait peur de me blesser. Mais en tout cas, j'étais à quatre pattes, donc c'était moins d'un an.
Vous êtes tout petit. Ouais,
mais j'ai vécu dans la musique toute ma prime enfance. Oui.
Et justement, là, ces souvenirs très lointains, vous arrivez à aller les chercher grâce à des séances de méditation ou d'hypnose, c'est ça?
N'importe qui peut y arriver, il suffit de fermer les yeux, de se rappeler d'un souvenir ancien ou de demander à son esprit d'aller chercher. C'est un peu comme un ordinateur, vous demandez de chercher un vieux fichier, il finit par le trouver.
Vous
c'est
croyez
juste
qu'on
pense
peut tous y arriver?
Alors, c'est un niveau de décontraction. Ce qui nous empêche d'y arriver, c'est que soit on est convaincu qu'on va pas y arriver, soit on n'arrive pas à se relâcher. Mais dès le moment où on respire, on se détend et on ferme les yeux, on a accès à son disque dur intérieur, oui.
Donc lâcher
ce que je voulais dire,
quoi.
C'est que c'est forcément là, en tout cas, quoi. Les données sont stockées, c'est juste qu'on...
Je le crois. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des preuves techniques où on peut savoir si on se rappelle ses souvenirs d'enfance, mais je crois que c'est important d'aller les chercher et d'explorer son propre cerveau en se demandant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de plus ancien.
On va en parler en détail de tout cela avec votre spectacle et cette expérience très étonnante que vous proposez sur scène, mais on continue votre portrait sonore avec ce son.
Mais à 7 ans, on perd ses dents. Mais à 7 ans, on perd ses dents. On les met sous son.
Alors, c'est Anne Sylvestre qui dit à 7 ans, on perd ses dents. C'est vrai que la majorité d'entre nous, on a perdu nos dents à 7 ans. Pendant que vous, Bernard Werber, vous écriviez votre première nouvelle à 7 ans.
Oui, ça s'appelait Souvenir d'une puce. Et le professeur m'a rendu la copie en me disant j'ai rarement autant rigolé qu'en lisant votre copie. C'était l'histoire d'une puce qui escaladait un être humain, qui arrivait en haut où il y avait une forêt, où elle rencontrait des poux. Et le prof m'a dit c'est super. Un petit détail près, c'est que la première phrase ne va pas. Et un jour, vous comprendrez pourquoi. Et cette première phrase, c'est: je suis né d'une mère pucelle et d'un père puceau.
Mais
il ne l'a pas expliqué sur le coup.
Oui, bon, vous aviez 7 ans en même temps.
Mais pour moi, une puce est née d'une mère pucelle et d'un père puceau.
Comment vient le déclic à 7 ans comme ça d'écrire une nouvelle?
Je crois que mon père me racontait tout le temps des histoires avant de me coucher. Donc ma mère me faisait écouter de la musique, mon père me racontait des histoires. Et il y a un moment, j'ai tout le temps baigné dans les histoires. Et je me suis aperçu qu'en me racontant une histoire, automatiquement, je souris et je me sens bien, quoi.
Vous avez un truc avec les petites bêtes parce que
fourmis, ouais, les fourmis, puces, les puces, les poux.
Bah déjà, c'est accessible. La fourmilière, n'importe quel enfant, il se penche, il voit une ville avec des routes et des individus qui courent à gauche, à droite. Donc c'est la sensation de comprendre mon monde de haut. C'est pas que c'est, je m'intéresse aux petites bêtes, je m'intéresse aux bêtes visibles qui s'enfuient pas.
Ce que vous
quand
arrivez
j'arrive
à voir. Ouais. On poursuit votre portrait sonore avec ceci. Écoutez.
Ah ça.
Musical Box de
Jerry. Je suis un vieux
babar.
Je suis désolé.
Vous êtes un fou de musique, Bernard Werber.
Alors, je vais vous dire, sur cette musique précise, ça paraît très étrange, j'ai eu ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal. Alors,
c'est
le syndrome
quoi,
de Stendhal, c'est que tout d'un coup, vous voyez quelque chose que vous trouvez tellement beau, que vous arrêtez et le temps s'arrête et vous plongez dans l'œuvre. Et Genesis et cet album, Nursery Crime, je me suis arrêté. Ouais. Je me suis dit, j'ai rien vu d'aussi beau, d'aussi fou, d'aussi puissant, d'aussi dingue.
Vous vous souvenez exactement de ce jour-là? Vous êtes
oui,
au lycée quand vous découvrez Genesis, c'est ça?
Non, c'était en colonie de vacances
au
ski. Et je me suis arrêté et je me suis dit, il y a une porte qui s'ouvre dans ma tête. Mais ça s'est reproduit après avec d'autres situations, d'autres images, enfin avec certains tableaux. C'est-à-dire tout d'un coup, l'art est tellement puissant, puisqu'on parle d'art dans votre émission, il y a un moment où l'art, c'est pas juste, c'est joli ou c'est sympa. Mmh. C'est-à-dire c'est une ouverture totale du cerveau. Il y a une œuvre qui peut vous, comment dire, vous ouvrir un nouveau chemin. Et Genesis m'a fait ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Peter Gabriel et de lui en parler.
Wow, ça s'est reproduit avec d'autres groupes musicaux ou c'est qu'avec Genesis?
Yes, ah. Et Pink Floyd.
Ah, très bien. Bon, on va en parler de musique parce que Joe est avec
très
nous
dans la musique
aujourd'hui.
Progressive rock.
Tout à fait.
C'est Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Bernard Werber. On va parler dans un instant du voyage intérieur expérimental. C'est le spectacle de Bernard Werber qui est actuellement en tournée dans toute la France et à l'Olympia le 23 octobre. À l'Olympia, ouais, sacrée date. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi.
Culture Média ce matin avec Bernard Werber, alors qui n'est pas avec nous pour un nouveau roman, mais pour un spectacle. Le voyage intérieur expérimental, on va en parler dans un instant. Vous allez tout nous détailler parce que vous êtes en tournée à travers toute la France,
oui,
le 23 octobre à l'Olympia. Mais avant de parler de votre spectacle, Bernard Werber, je voudrais qu'on dise un mot sur Bernard Pivot qui nous a quittés hier et qui vous avait reçu deux fois sur le plateau de Bouillon de Culture pour Le Père de nos Pères et pour La Révolution des Fourmis. Quels souvenirs vous en gardez?
Ah, d'abord, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup, parce que pour moi, c'était la consécration. J'ai le souvenir surtout de la rencontre avec Jacques Perrin, qui était sur scène pour présenter, pour parler de Microcosmos. Et Pivot, ça n'a pas été l'émerveillement que j'attendais beaucoup.
Ouais.
Ça n'a pas été l'émerveillement que j'attendais, en toute honnêteté.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Bernard Rapp qui m'a vraiment révélé en premier. Et Pivot est vraiment arrivé très tard, c'est-à-dire 8 ans après les fourmis, alors que Bernard Rapp était sur les fourmis. Donc pour moi, je me sens plutôt une allégeance par rapport à Bernard Rapp. Je suis désolé de vous dire ça.
Il
n'y
a aucun problème, au contraire, justement, c'est intéressant de vous entendre dire ça aussi, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Bernard Pivot, qu'il n'était pas sûr, etc.
J'ai pas eu l'émerveillement, mais l'émerveillement, je l'ai avec Rapp, pas avec
Pivot. Il est passé à côté de
Je crois qu'il m'a découvert, il m'a découvert 8 ans après la sortie, donc c'est-à-dire il n'a pas été le lanceur. Il avait ce pouvoir-là, mais il ne l'a pas utilisé, en tout cas pour moi, alors que Bernard Rapp l'a utilisé.
Et ben voilà, et en même temps vous rendez hommage à Bernard Rapp ce matin.
Qui était vraiment un type extraordinaire. Et il m'avait dit avant l'émission Bernard Rapp, je vous retrouve alors, parler de Bernard Rapp alors qu'on parlait de Pivot, il m'a dit j'ai tellement aimé votre livre que j'ai lu deux fois avant de faire l'émission. Et je me suis dit, vu qu'on est 5 à éviter, il a le temps de lire deux fois le bouquin.
C'est que vraiment il a beaucoup aimé.
Et j'ai eu une éternelle reconnaissance à Rapp, désolé.
Merci Bernard Werber. On va parler maintenant de ce spectacle. Alors, VIE, voyage intérieur expérimental, c'est un voyage d'un nouveau genre. Vous êtes sur scène, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Vanessa Franqueur qui est musicienne. C'est un spectacle que vous avez présenté pendant 2 saisons à la Gaîté Montparnasse et maintenant vous êtes en tournée dans toute la France. Comment on peut résumer rapidement ce rendez-vous que vous donnez à vos lecteurs, mais à tous les Français en fait, hein. Ce ne sont pas que vos lecteurs qui sont dans la salle, hein.
Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, car c'est la première fois que je peux parler de ce spectacle. Et je vais vous dire la première phrase du spectacle, c'est « Je ne sais pas quoi vous attendez, mais vous allez voir, c'est autre chose.
Ouais. »
Et ça résume bien. En tout cas, c'est pas une conférence littéraire, c'est un vrai show.
Ouais.
Et c'est en fait, c'est ce qu'on appelle des méditations guidées, accompagnées à la harpe. Alors, il y a tout un visuel, il y a des projections d'images. Et moi, je guide avec la voix, je propose aux spectateurs de fermer les yeux et de visualiser des choses extraordinaires. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser l'imaginaire des spectateurs pour leur faire vivre des expériences intérieures. Donc, il y a 4 méditations proposées. Et l'une d'elles, par exemple, consiste, comme on l'a vu tout à l'heure, à se rappeler du plus beau souvenir de son enfance. C'est toujours positif. Et une autre consiste à aller dans son île personnelle. Chacune fait à peu près 10 minutes. Et une autre consiste à revenir dans ses vies antérieures. Mais ça marche pas sur tout le monde. Et d'ailleurs, je le dis, ça marchera pas sur tout le monde. Mais en général, les gens qui viennent sont pris par l'ambiance. Et ça marche entre 70 et 80% des gens qui vivent un truc très très fort et très nouveau. Et ma grande difficulté, c'est de parler de cette chose, de ce spectacle, parce qu'il est tellement innovant qu'il ressemble à rien de connu. Donc est-ce que les gens sont capables de venir à quelque chose de complètement...
Même si ça marche pas, on participe et au moins on se pose des questions. Il y a une expérience géniale, qui est une expérience que vous faites avec un citron, bon, qui est imaginaire, ce citron. Mais alors, en le regardant, en participant au spectacle, même si on n'arrive pas à retourner dans ses souvenirs d'enfance, ça marche sur pas mal de personnes. Est-ce que vous pouvez expliquer à Joe, à Sacha, aux auditeurs d'Europe 1, cette expérience que vous faites avec le citron pendant le spectacle? On en dévoile trop?
Non, je me dis, est-ce que je vous propose de le faire en direct? Je me dis qu'il y a des gens qui peuvent être au volant.
Ah oui, mais pour fermer les yeux,
Alors, les gens qui sont au volant, ne m'écoutez plus. Vous passez sur une autre chaîne.
Parce que ça bouge, ça roule au pas ce matin.
Oui, non, mais c'est très simple. Je montre que le fait de visualiser des choses agit sur le corps. Donc, si je vais vous le proposer, allez-y. 4, 3, 2, 1, fermez les yeux. Et maintenant, visualisez un citron. Visualisez que ce citron arrive dans votre main. Visualisez que vous coupez le citron en deux, que vous faites une rondelle. Visualisez que vous prenez cette rondelle et vous la pressez et toutes les pulpes éclatent, qu'il en coule un jus qui tombe dans un verre. Visualisez que ce verre approche de vos narines et vous sentez l'odeur piquante du citron. Puis ce verre approche de vos lèvres et vous commencez à boire. 4, 3, 2, 1, 0, ouvrez les yeux. Est-ce que vous avez de la salive dans la bouche?
Oui, un peu, ouais. Oui.
Alors, c'est un phénomène très simple qui est la suggestion, c'est-à-dire quand vous proposez à quelqu'un de visualiser un citron, d'ailleurs tous les auditeurs qui l'ont entendu peuvent faire la même expérience chez eux, le cerveau se dit, bon, on parle de citron, ça se peut qu'on boive du citron, dans le doute, on va mettre de la salive pour diluer l'acidité du citron.
On anticipe tout. Je pense l'acidité.
Ça marche pareil avec un cassoulet, par exemple.
Alors, il y a moins d'acidité dans le cassoulet, mais essayez.
C'est juste pour montrer que quand vous racontez une histoire, vous pouvez avoir une action sur le corps. Mais même quand on lit un livre, vous pouvez avoir des actions sur votre corps. Tout à l'heure, je parlais du syndrome de Stendhal. C'est-à-dire où le temps s'arrête parce que vous voyez une œuvre d'art. Mais quand vous lisez un livre, vous riez, vous pleurez, vous vivez quelque chose. Et en fait, le lien entre ce spectacle et mon travail d'écrivain, c'est le travail de conteur. C'est-à-dire fermer les yeux, visualiser une histoire. Et ce travail de conteur, il remonte à la préhistoire. Au moment où les premiers bardes, les premiers sorciers, les premiers druides se mettait autour du feu et disait je vais vous raconter l'histoire des ancêtres, et tout le monde écoutait ça, et c'était on n'appelle pas ça méditation, on n'appelle pas ça récit, c'est juste une histoire. Et mon travail, c'est raconter des histoires et faire visualiser des choses.
Et vous
le
faites très bien, parce que d'ailleurs, le spectacle commence comme ça. Vous partez de la base jusqu'à aujourd'hui, ce que nous sommes sur Terre, etc. C'est un spectacle très interactif. Certaines personnes montent sur scène, partagent leur expérience.
Surtout, toute la salle se met à chanter. Je fais une chorale qui fait vibrer les murs de la salle et je leur fais faire de la gymnastique. C'est-à-dire que c'est une expérience du corps. On n'est pas assis à recevoir le spectacle. On va vivre quelque chose avec son corps. Tout à l'heure, l'expérience du citron a montré qu'on a de la salive dans la bouche, mais on peut aussi avoir des sensations organiques très fortes dans le spectacle.
Ça s'appelle le voyage intérieur expérimental, le spectacle de Bernard Werber. On en parle jusqu'à 11h sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Sacha Nokovitch pour le premier indispensable du jour. On parle de quoi, Sacha, aujourd'hui?
Un super podcast qui mélange foot, mode et histoire.
Ah, ça va être passionnant. Et puis, on va jouer au 3 ou rien pour tenter votre chance. C'est très simple. Vous vous inscrivez si vous voulez jouer avec nous. Vous envoyez Media, M-E-D-I-A-S, au 739-21, 2 fois 75 centimes, plus coût du SMS. Et en plus, vous aurez la chance de jouer avec Bernard Werber. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi.
Culture Média avec Bernard Werber ce matin, qui vous invite sur scène pour un voyage intérieur expérimental. On le découvre, ce voyage, et c'est passionnant. Le spectacle est actuellement en tournée dans toute la France. Vous serez d'ailleurs sur la scène de l'Olympia le 23 octobre prochain, Bernard Werber. Avant cela, on va parler un peu de sport, mais pas que, de mode aussi, avec Sacha Nokovitch. Cette semaine, vous nous conseillez un podcast, Sacha, sur l'histoire du foot.
Plus précisément sur l'histoire des maillots de foot. Alors, ça s'appelle Maillot Football. Football. Cool, c'est très cool, c'est vrai. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr, mais aussi sur TikTok, Instagram et YouTube. Et c'est déjà un joli succès. En seulement 3 mois, le programme du journaliste Gilles Baudu a cumulé plus de 330 000 vues. Et écoute, c'est quand même pas mal. Ouais. Et je le comprends parce que moi, j'ai dévoré les 10 premiers épisodes. C'est absolument passionnant. En fait, c'est très pédagogique parce qu'à travers la création des clubs et des tuniques surtout, on en apprend énormément sur ces équipes et leur développement. Chaque évolution de couleur et de motif a en fait une signification précise et marque souvent un tournant dans leur histoire. Alors vous pensez par exemple que Lens a toujours joué en sang et or?
Bah bien sûr.
Ouais, non.
Et bah bien sûr que non.
Ah oui.
Je vous dirai pas pourquoi
avant.
Faut qu'on aille écouter.
Vous imaginez que le bleu et le grenat sont les couleurs historiques du Barça? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une imagination catalane, une invention espagnole, ça vient de Suisse.
Non, mais ne me dis pas que les verts avant, ils n'étaient pas verts.
Et bien justement, si vous voulez savoir pourquoi les verts jouent en vert, vous avez qu'à écouter ce magnifique podcast qui fait pour vous.
Ça a l'air passionnant. On adore ça en plus, l'histoire du football. Tiens, on va parler d'un club qui a fait la une de l'actualité hier. Le club parisien, non, pas Sochaux, en jaune et bleu, je vous le rappelle. Le PSG, tiens, on apprend des choses sur le maillot du PSG.
Oui, alors petit haut de consolation pour les supporters. Effectivement, il y a un épisode consacré au maillot parisien. Alors ce qu'on apprend, c'est qu'au moment de la naissance du club, en 1970, vous savez que c'est une fusion entre le Paris Football Club et le Stade Saint-Germanois, à l'époque, le maillot est totalement rouge avec quelques petites touches de bleu seulement. Il faudra attendre 3 ans, 1973, pour qu'un homme, et pas n'importe lequel, le célèbre couturier Daniel Echter, revoie complètement la tenue parisienne.
Un maillot bleu avec une bande rouge au milieu, séparé par 2 liserés blancs.
Waouh!
Ça ressemble beaucoup, mais alors beaucoup, au maillot de l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff. Quoi de plus logique? Dans la vie, Echter et Cruyff sont potes. Et à l'époque, l'Ajax, c'est le top. Mais promis juré, Echter n'a pas copié ce qui est alors le meilleur club d'Europe. Son inspiration, il l'a trouvé ailleurs.
Dans la rue, j'ai vu une Ford Mustang avec sa bande centrale sur le capot qui se prolonge sur le toit. J'ai tout simplement transposé ça.
Alors, ça vient d'une voiture.
Mensonge ou pas, on sait pas.
Ouais.
Il y en a qui disent que c'était quand même légende,
l'inspiration de l'Ajax quand même. Il a pas osé assumer.
Ah oui, d'accord.
Certains disent ça. En tout cas, Echter crée à l'époque le maillot emblématique, en tout cas les codes du maillot emblématique du PSG, que les supporters parisiens défendent bec et ongle aujourd'hui.
Ah oui, on imagine dans ce podcast, Sacha, qu'on retrouve l'ensemble des clubs mythiques, de tous les clubs français.
Pour l'instant, il y a 10 épisodes et effectivement 9 consacrés aux Français.
Ouais.
Le prochain sera dédié à un club étranger quand même. Un maillot, celui du Bayern Munich ou du Real Madrid en fonction de l'équipe qui va se qualifier ce soir en finale de Ligue des Champions.
Ah oui, ils suivent l'actualité aussi.
Ah oui, c'est lié
à
l'actu, bien sûr. Et autre actu, pour ceux qui souhaitent se mettre dans l'ambiance de la demi-finale européenne de l'Olympique de Marseille de demain soir face à l'Atalanta, on a encore un club français en Coupe d'Europe, n'oublie pas.
Voilà, un petit aux armes pour faire plaisir aux Marseillais qui nous écoutent.
Un épisode est évidemment consacré à l'Olympique de Marseille, à l'OM. On y apprend notamment que depuis sa création en 1899, le club joue avec un maillot blanc, bien sûr, mais pendant plus de 20 ans avec un short noir.
C'était en noir, les Marseillais?
C'était étrange, oui. Avant 1920, le bleu apparaît tout doucement sur le maillot, d'abord en fait par les chaussettes et par petites touches sur le maillot. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse découvrir le podcast Maillot Football Cool.
Maillot Football Cool. Ça a l'air génial. Merci Sacha Nokovic.
Merci.
Et puis on continue à vous lire dans l'équipe.
Toujours là,
Sacha.
Bien sûr.
2 Mbappé il a eu dans l'équipe ce matin. Ça c'est une sacrée note. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Bernard Werber. Et après le journal permanent sur Europe 1, nous serons avec une invitée inattendue. Pour vous, Bernard, c'est une surprise.
Oui. Eh ben.
Elle s'appelle Annick Le Moustique. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h, Europe 1, Culture Média. Anissa Haddadi.
Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est Culture Média jusqu'à 11h avec Bernard Werber que nous accueillons aujourd'hui. Pour votre spectacle, mais là en face de vous, quelqu'un vient d'entrer dans le studio. C'est votre invité très attendu. Sortez la citronnelle, ça risque de piquer. C'est Annick Le Moustique.
Tout de suite les clichés, Anissa. Déjà, on pique pas en matinée, on pique à l'heure de l'apéro quand vous êtes sur le point de vous endormir.
Et d'ailleurs,
Alors ça, je voudrais dire qu'à la base, ça part d'un bon sentiment.
Le fait de faire bzzz en frôlant nos oreilles alors qu'on essaye de s'endormir, ça part d'un bon sentiment.
Oui, c'est pour vous rappeler des trucs que vous aviez oubliés. T'as pensé à racheter du PQ? Il faut que tu rappelles ta grand-mère. Non, Anissa, le rosé, c'est pas comme de l'eau.
Ouais, bon, merci. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi vous vouliez rencontrer Bernard Werber ce matin?
Alors, vous avez vu ses œuvres, hein? Les fourmis, les abeilles, les papillons, et rien sur les moustiques.
Les fourmis, elles sont tellement organisées, et les abeilles, elles sont tellement dévouées à leur reine. Vous, les humains, vous appelez ça une structure sociale sophistiquée. Moi, j'appelle ça une dictature supplément culte de la personnalité.
Oula, Annie, vous avez la remontée comme un coucou, là, ce matin.
Oh, me parlez pas de ces arnaqueurs d'oiseaux sanguinaires qui tuent pour voler le nid des autres. Bref, Bernard, je suis venue redonner ces lettres de noblesse aux moustiques. Car chez nous, c'est la liberté individuelle avant tout. Premier arrivé sur un touriste néerlandais, premier servi. Enfin, encore faut-il qu'il ait pas mis de citronnelle, quoi.
Vous mettez tous de la citronnelle de Saint-Tropez à La Rochelle. Pour moi, c'est comme de l'eau de Javel. Je suis obligée de vous piquer sous les aisselles.
Super. Pourquoi vous avez besoin de nous piquer quand on est en vacances comme ça tout le temps?
Mais parce que nous aussi on part en vacances. Vous, vous faites du paddle, nous on plante nos trompes dans votre épiderme jusqu'à trouver un capillaire sanguin. Chacun ses loisirs.
D'ailleurs, vous faites quoi le reste du temps?
Bah, on travaille. Par exemple, feu mon mari Patrick le moustique, il était dans le bâtiment. Il s'occupait du marteau piqueur.
Ça se tient, oui. C'est drôle. Il est décédé.
Merci.
Il est décédé, je suis vraiment désolée.
Non, vous excusez pas, il a vécu 9 jours, c'est un bel âge, hein. Et moi, je bosse depuis toujours dans la coiffure. Je tiens un salon, moustiquaire. Yes. C'est dans le marais.
Bon, c'est vrai que ça aurait été dommage de passer à côté de ce jeu de mots.
Ouais. Annick. Enfin bon, quand je pense que nous, les femelles moustiques, on vit 56 jours en moyenne et ces salauds du gouvernement, ils ont augmenté l'âge de la retraite à 45 jours. Putain, on s'est fait avoir, on n'aurait jamais dû voter pour Emmanuel Moucheron. Bref, je voulais vous faire une demande officielle, monsieur Bernard Werber.
Allez-y, c'est l'occasion, il vous écoute.
Je me lance. Mon Berniche, ne prenez pas ça pour une menace, mais si votre prochaine trilogie n'est pas sur les moustiques,
je vais vous piquer derrière la nuque ou entre vos doigts de pied, sur la terrasse ou quand vous ferez le marché. Je vais recouvrir votre visage de boutons gonflés. Je vais vous piquer, vous, votre femme et votre cousin Arnaud. Même vos enfants, je serai un vrai bourreau. Écrivez un livre sur le moustique qui s'appelle Annick.
Merci, wow. Annick le moustique, et
merci,
bravo à cette croyance.
Merci. Bon, bah, je vais réfléchir, mais ça m'a l'air une bonne idée.
Ça y est, vous êtes convaincu,
Bernard? Je cherchais justement, mais de quoi vais-je pouvoir parler?
Voilà, vous l'avez, votre prochain livre, et tout est parti d'Europe 1 et d'Annick le moustique, alias Cécile Marx, qui est en spectacle au Petit Palais des Glaces samedi soir. On vient vous voir. Hein,
oui.
Allez-y, vous allez passer un moment.
Avec plaisir, je vous attends.
Vous écoutez Europe 1 et il est l'heure de jouer.
Ah,
parti. Allez, on y va, c'est l'heure de jouer le 3 au rien. 3 bonnes réponses, sinon vous gagnez rien. Et ce matin, vous jouez pour tenter de remporter, à l'occasion des 50 ans des éditions Futuropolis, un superbe lot de 3 BD. Le lot comprend notamment Le Chant des Asturies, la grande saga d'Alfonso Zapico, Catharsis ou encore La Loi des Probabilités. Que de très bonnes BD recommandées par Sébastien Bordenave.
Si il a dit OK.
Notre monsieur BD ici sur Europe 1. Et nous accueillons ce matin Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Anissa, bonjour Bernard Werber et bonjour tout le monde.
Bienvenue Cédric sur Europe 1. Vous nous appelez d'où Cédric?
Du côté de Bourg-en-Bresse. Je vais pas donner le nom de mon village parce que sinon on dira un code wifi, ça va pas y aller.
Ah, il est compliqué. Ah, moi je pensais que c'était parce que vous aviez peur qu'on vous reconnaisse et que tout le monde dans le village était juste entendu sur Europe 1.
C'est possible. En plus, si je trouve pas les 3 bonnes réponses ou on vient me reconnaître dans le village, on va dire Bourg-en-Bresse, c'est bien Bourg-en-Bresse.
Bon, très bien. Si vous gagnez, puis on restera secret aussi parce que tout le monde va venir vous piquer vos BD. Donc on va rester discret, Cédric. Bon, le jeu, il est simple. Vous allez entendre à la suite une chanteuse, un extrait de film et un générique télé. Et vous avez une minute max pour donner vos réponses. Est-ce que vous êtes prêt, Cédric?
Oui, je suis prêt.
Allez, c'est parti.
Concentrez-toi, regardez mon œil. Bloquez ta main.
Oula.
Pousse à l'intérieur. Lustré. Frottez. Lustré. Frottez.
Alors, c'est Eric.
Alors, j'ai reconnu Princesse Erika.
Oui, oui. Bien joué.
Alors, le film, pas du tout. Ah. Mais pas du tout, du tout.
C'est un parcours initiatique.
C'est un monsieur un peu âgé qui donne des cours à des enfants.
Qui s'intéresse au bonsaï.
Voilà. Et c'est un film des années 90,
ouais,
c'est ça,
on a regardé. 80 même, je crois.
80. 80 sport 90. De combat, un monsieur qui fait de l'initiation au sport de combat à des petits garçons.
Ouais, c'est bien.
Dites des arts martiaux au pif.
Il y a le judo, il y a le.
Le karaté, karaté kid.
Voilà. Yes.
Ouais, bah, dis donc.
Et la dernière.
On voit ma passion pour les films de karaté.
Générique. En alors plus. Un générique télé et Thomas est cloué au lit. Du coup, on lui a fait un petit message. Quelle émission, à votre avis?
Alors, j'en ai aucune idée. Pareil, le générique, j'ai pas reconnu.
Une émission qui parle aux malades. Aux gens qui vont bien aussi, mais. Michel Simès, Marina Carrère en cause.
Allô, docteur, non, je
France
sais plus.
France 5.
Aïe.
Allez-y. Quoi?
Non mais je j'arrive pas, je m'en rappelle pas.
Sur le gong,
le gong.
C'était le mal de la santé.
Aïe. Bah, ouais. C'est le déshonneur sur Bourg-en-Bresse.
Heureusement que vous n'avez pas donné le nom du village, Cédric. Hein.
Non mais on voit ma passion pour les films de karaté et pour les émissions de santé du coup.
Bon Cédric, ce que je vous propose, c'est que vous renvoyez un petit SMS, on vous rappelle et on retente ensemble parce que nous on n'aime pas quand on repart les mains vides ici, vous le savez. Hein. À bientôt Cédric. Bonne journée à vous. Bon 8 mai à vous. Vous envoyez média par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS si vous voulez vous aussi tenter votre chance et repartir les bras chargés de cadeaux. On se retrouve dans un instant pour la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Joe Hume et un nouvel indispensable, Joe.
Ouais, on va parler du retour du plus grand duo pop de l'histoire de la musique britannique. Voilà, tout simplement.
Et on va voir si Bernard Werber valide. Bah, à tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Anissa Haddadi.
Avec Bernard Werber jusqu'à 11h sur Europe 1. Bernard Werber en tournée dans toute la France, non pas pour signer des livres, mais bel et bien pour vous accueillir sur scène avec ce spectacle. Alors, ce spectacle, c'est un voyage intérieur expérimental où vous nous invitez tous à prendre le temps, à se mettre sur pause, à nous écouter un peu plus, à aller plonger dans nos souvenirs. Vous parlez de méditation guidée dans ce spectacle, et c'est vous qui nous guidez avec votre voix. Vous êtes sur scène avec Vanessa Francoeur qui, elle, joue de la musique. Quelle est la différence entre... On ne connaît pas ce spectacle, on écoute Europe 1 ce matin. C'est quoi? C'est de l'hypnose? C'est de la sophrologie? C'est quoi exactement?
Alors, dans l'hypnose, il n'y a pas la volonté de faire du bien, il y a juste la volonté de faire un show. Donc, les gens se retrouvent à faire la poule ou à mimer des
fesses carrières.
Et je crois que c'est pas forcément bien pour les gens. Là, c'est vraiment quelque chose qui est censé faire du bien. Donc, c'est juste, on ferme les yeux. Et puis, ça ne demande pas une implication aussi forte que l'hypnose, c'est-à-dire que des gens peuvent juste fermer les yeux, visualiser les choses, vivre ça comme une sorte, j'allais dire, c'est du tourisme spirituel. Et c'est du tourisme spirituel uniquement dans des endroits où on se sent bien, dans des souvenirs où on se sent bien. Et c'est très léger, en fait, par rapport à d'autres expériences dans lesquelles les gens sont complètement sous contrôle. Là, on peut, à tout moment pour ouvrir les yeux, c'est juste du tourisme.
Est-ce que quelqu'un qui est dans le contrôle, je parle de moi, précisément, quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, est-ce que s'il vient vous voir un soir, est-ce qu'il peut réussir à lâcher prise?
Alors
est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de boulot?
Alors je demande qui c'est qui veut tout contrôler dans sa vie, et sur des salles, en général je fais des salles de 800, il y a toujours 4 ou 5 personnes qui lèvent la main, et je leur dis, faites quand même l'expérience, vous allez voir, et la plupart réussissent, tout simplement parce que il y a un moment, quand on sent que tous les autres y sont, c'est comme si tout le monde est parti en voyage, on se dit zut, je vais pas rester en rade juste parce que je veux tout contrôler, donc il y a un moment on se lâche. Mais je fais aussi des exercices de respiration, de la gym, du chant, précisément pour que les gens reviennent dans leur corps et arrêtent de penser à leur boulot, leur famille,
oui,
leur santé.
Il y a du chant, c'est très bon enfant ce spectacle, il y a beaucoup de partage d'ailleurs.
Francoeur est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a aussi un pouvoir en tant que harpiste de mettre les gens en transe.
Et elle chante même, enfin.
Elle chante, elle met les gens dans un état extraordinaire. Mais vous savez, chaque spectacle est différent parce que j'adapte et ma voix et Vanessa Francoeur adapte son chant en fonction de la salle. Donc à chaque endroit, selon la salle, les gens qui sont là Et l'énergie qu'il dégage,
c'est jamais le même spectacle.
On s'adapte, ouais.
Vous serez le 23 mai à Clermont-Ferrand, le 10 octobre à Belfort et le 23 octobre à l'Olympia à Paris. On va parler musique parce que vous adorez ça, Bernard Werber, la musique. Et c'est Joe Hym qui s'en charge ce matin. Joe, vous avez décidé de raviver vos souvenirs,
bah oui,
mais avec de la nouveauté.
Bah oui, voilà, on parle de raviver ses souvenirs, c'est ce qu'on va faire, puisque après 9 mois à présenter une émission de musique tous les jours sur Europe 1 et à échanger avec nos auditrices et auditeurs, j'ai bien compris que la période de la musique pop la plus fédératrice à leurs oreilles, ce sont les années 80, et les années 80, c'était la décennie des Pet Shop Boys.
Je me souviens. On est en quelle année là ?
Là, on est en 1987. Le duo Pet Shop Boys sort le single It's a Sin. 3 semaines au top des charts au Royaume-Uni. Premier dans les charts en Allemagne, en Suisse, en Espagne, au Danemark, en Suède, etc.
Et en France ?
Non, alors en France, It's a Sin a cartonné dans les boîtes de nuit, figurez-vous, dans les clubs, mais se classe uniquement en 12e position du top 50. Mais les Pet Shop Boys, c'est tout de même plus de 50 millions d'albums vendus dans le monde. Exactement le même nombre de livres que notre invité aujourd'hui. Et une place dans le Guinness Book des records en tant que le duo le plus populaire de l'histoire de la pop britannique.
Bon, alors, côté souvenirs, bon, je pense que là, c'est bon,
oui,
on est bon, on a fait un bond dans les années 80 avec vous, mais vous nous disiez que vous alliez aussi nous parler de nouveautés.
Absolument, parce que les Pet Shop Boys sont de retour avec Loneliness, leur 15e album, et qu'il est fantastique. C'est le refrain de Loneliness et ça fonctionne,
danse bien, ça,
hein, ça se danse quand même pas mal. Mais c'est en accord mineur, donc c'est un petit peu mélancolique. C'est le morceau titre du premier single il y a quelques semaines que c'est sorti. Et ça propose la spécialité du duo, hein, c'est-à-dire vous faire danser et pleurer à la fois. C'est l'une des grandes forces de cet album, marier des émotions assez contradictoires et nous faire envisager la danse comme seul exutoire possible.
Enfin là on l'entend, on l'entend bien. Ça sonne 80s quand même.
Ah
hein.
Bah ça sonne, ça je vais pas vous contredire. Hein, sur Loneliness, le duo de Neil Tennant et Chris Lowe a trouvé, je trouve, le bon équilibre entre le son très synthétique fait de beats électroniques et de nappes de synthétiseurs de leur début et des orchestrations plus modernes caractéristiques de leurs derniers albums en date. L'ensemble a été produit avec James Ford, l'excellent producteur et musicien qui a accompagné aussi bien Depeche Mode que Blur, Kylie Minogue ou encore les Arctic Monkeys. Et avec lui, les Pet Shop Boys sonnent tantôt très rétro, très clubbing, et puis plus introspectif aussi, mais l'important ça reste encore et toujours, écoutez ça, la mélodie. Where have they gone, les petits bonbons, who dances now
to their sweet old song. Là, c'est pas mal, moi ça me plaît, hein. Et il m'a l'air consistant quand même ce nouvel album des Pet Shop Boys.
Ouais, d'autant plus qu'il se passe beaucoup de choses dans les paroles, c'est vraiment très très joli, c'est assez simple, moi je trouve que c'est l'un de leurs meilleurs albums sur les 15, c'est un disque qui les présente sous leur meilleur jour, le duo est en tournée, mais pour le moment il n'y a pas de date annoncée en France, la dernière fois qu'ils sont venus c'était en 2023 à l'Olympia, c'était il y a un an à peine, et c'était grandiose, donc on espère les revoir très bientôt.
Et ben en attendant on a l'album entre les mains et entre les oreilles, et ça fait du bien, merci beaucoup Joe.
Avec
on
plaisir.
Vous retrouve du vendredi au dimanche dans Hey Joe, et ça aussi ça fait beaucoup de bien, c'est de 21h à 22h, on écoute de la bonne musique, on apprend plein de choses. Bah justement, tiens, on va rester dans les années 80 parce que c'est vrai, vous avez raison Joe, c'était vraiment très chouette la musique dans les années 80. Voici Billy Joel sur Europe 1. Ça chantonne, ça fait du bien. Alors surtout si vous êtes en voiture actuellement, là c'est maintenant qu'il faut monter le son. Billy Joel, Uptown Girl sur Europe 1 dans Culture Média. On va se retrouver dans un instant pour les dernières minutes de Culture Média aux côtés de Bernard Werber. Et puis notez que même les jours fériés, la Libre Antenne vous accueille sur Europe 1. Rendez-vous ce soir après le journal de 22h avec Olivier Delacroix. À tout de suite.
9h30, 11h, Europe 1 Culture Média. Anissa Haddadi.
Et ce sont déjà les dernières minutes de Culture Média sur Europe avec notre invité Bernard Werber, avec ce spectacle, ce voyage intérieur expérimental. C'est fascinant, c'est passionnant. On en parle beaucoup pendant les pauses de ce spectacle. Vous serez à l'Olympia le 23 octobre. Et alors, on vous recommande d'y aller parce que dans ce spectacle, qui est un spectacle de méditation guidée, vous allez permettre au public de rencontrer leur futur soi. Alors, c'est quoi le futur soi? C'est quoi
On va dire le futur eux-mêmes qui a tout réussi. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes complètement épanoui, complètement tranquille, complètement serein dans le futur. Et maintenant, vous rencontrez cette personne que vous allez devenir, vous pouvez devenir un jour, et vous lui demandez des conseils pour devenir comme elle. C'est juste une projection de la pensée, mais tout est tourné pour que les gens repartent avec la banane, avec le sourire, avec de l'énergie. Et donc, c'est des méditations qui poussent à se visualiser dans la victoire et dans la réussite et dans l'épanouissement. Mais c'est tout simple, il suffit juste de fermer les yeux et de jouer le jeu.
Alors, c'est très interactif comme spectacle. C'est vraiment pas une conférence. Vous êtes avec Vanessa Francoeur sur scène qui joue de la musique et vous descendez dans le public.
Ouais.
Vous quittez la scène.
J'arrive avec un micro et il y a un caméraman qui filme, donc les gens apparaissent en grand écran, et ceux qui ont envie, en général ils ont tous envie, racontent ce qu'ils ont vécu, ils donnent des détails. Là où c'est le plus surprenant, c'est évidemment l'expérience de retrouver une de ses vies antérieures. On a des récits qui sont des vrais petits romans, et c'est en ça que chaque spectacle est complètement différent. Ça va dépendre en fait du public et de leur envie de vivre cette expérience un peu unique.
Quels sont les retours qui vous ont fait le public après ça? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions après ce spectacle? On doit s'en poser quand même.
Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre. Moi, je me rappelle récemment, il y avait une petite mamie qui a levé la main et elle a dit « Moi, je me suis retrouvée dans une de mes vies antérieures, je gérais des orphelins, j'étais un homme, je gérais des orphelins. Et puis, ils venaient tous et puis ils me parlaient. » Je dis « Bon, bravo, vous occupez d'une association caritative. » Mais non, pas du tout, je gérais un gang d'orphelins et je leur demandais qu'est-ce qu'ils étaient arrivé à prendre comme argent. C'était des pickpockets et ça se passait en 1870, dans les années 1800 en Angleterre. Et elle nous raconte en détail. Et cette petite mamie qui a l'air toute gentille en train de réexpliquer qu'elle était chef de gang.
Chef de gang.
C'était étonnant.
Chef de gang au 19e siècle.
Je pourrais jamais garantir que c'était vrai. Ce qu'on voit, c'est le récit lui-même. Et évidemment, tout le monde rit. Et il y a beaucoup de moments où les gens rient. C'est,
Joe,
c'est
un vous étiez quoi, vous, dans une vie antérieure?
Dans une vie antérieure, j'étais un requin, je pense.
Il y a des chances.
Allez
voir Bernard Werber, vous allez en apprendre beaucoup sur vous, on va tous en apprendre beaucoup sur nous, et rien que pour juste se faire du bien et un peu lâcher prise après, vous verrez si vous aurez de la salive en pensant au citron, tout ça, toutes les expériences qu'on a faites ce matin.
On rencontrera son futur soi-même qui a tout réussi.
Exactement, et on pourra rencontrer son futur. Le 23 mai à Clermont-Ferrand, la Maison de la Culture, vous serez au Perreux aussi, au Grand Théâtre, vous serez à Belfort, à Paris, à l'Olympia, ça c'est le 23 octobre.
Sacré enjeu.
Pêchez-vous de réserver, parce qu'en plus, vivre une telle expérience dans un lieu aussi mythique que l'Olympia.
Ah ouais, ça va être extraordinaire. Je me demande ce qui va.
Il y a quelqu'un qui va vous raconter qu'il était Edith Piaf dans une vie antérieure.
Il y avait les Beatles et Rolling Stone aussi.
C'est la plus grande salle que vous allez faire de toute la tournée, là, l'Olympia, non?
Oui, c'est la plus grande salle.
Parce que partager ça de manière aussi intime avec quoi? Il y a 2000 personnes à l'Olympia. 2000 personnes.
Oui, jusque-là, le maximum, c'est le Sébastopol. J'avais fait 1200 personnes. C'était extraordinaire, on a vécu un truc ensemble. Puis quand on chante, quand les gens se mettent à chanter et que toute la salle se met à vibrer, là il y a une émotion extra.
C'est le voyage intérieur expérimental avec Bernard Werber sur scène. On a hâte de venir vous voir, Bernard Werber, et toutes les infos sont à retrouver évidemment
avec
sur internet. Merci d'avoir passé ce moment avec nous ce matin, en ce 8 mai.
Merci à Alissa de m'avoir invité.
Demain, à votre place dans Culture Média, nous accueillerons le chanteur Jérémy Frérot qui nous interprétera son nouveau live. Oui, c'est ça.
Je l'ai eu fort dans le casque.
Il a de la voix.
Il y a un petit coffre.
Et il va chanter en direct demain sur Europe 1, dans le studio Coluche, rien que pour vous, dans Culture Média. Et puis dans la première partie, nous serons avec Bertrand Huskla qui revient avec un nouveau format de sa série Brut. et c'est sur Canal+. Vous pouvez réagir dès maintenant, poser vos questions à nos invités au 01 80 20 39 21. Et c'est un numéro de téléphone qui fonctionne aussi pour joindre Pascal Pro jusqu'à 13h. Ça va Pascal ?
Qu'est-ce que vous avez fait de l'enfant ? Il est où ?
L'enfant.
Il est où ? Il est pas là ?
Il est malade.
Monsieur Thomas ?
Il a de la fièvre.
Oh, il est resté. Mais il y a des choses qui nous tombent dessus. Je
sais
pas.
Mais je vois que vous avez le bout du nez tout rouge, vous aussi.
Mais oui, bah, regardez, j'ai même mon petit. Ça m'est tombé dessus hier à 11h. 11h30. Je sais pas si c'est une allergie, si c'est les pollens, les fourmis, je peux pas vous dire.
Ça doit être les fourmis, hein.
Ça doit être ça.
Mais voilà, et alors depuis, je mouche. Mon nez coule. Donc on m'a. Mais il y a une de vos amies qui m'a donné tout à l'heure de l'équipe qui m'a donné un truc antihistaminique.
Alors c'est la rédactrice c'est la rédactrice en chef de l'émission Morgane Vianney qui vous a donné un.
Exactement, Morgane, et elle a été très gentille, mais j'hésite encore à le prendre.
Ah mais vous l'avez pas pris encore.
Mais non, parce que je prends jamais rien.
Ah non, donc, et puis ça fait dormir. Donc
ça fait somnoler, c'est ce que je vous ai proposé hier.
Ah oui, alors j'ai l'impression que notre ami Fabrice Lafitte, lui, il a souvent des.
Et bonjour. C'est Jacques Vendroux qui vient de passer derrière.
Alors, Jacques, tiens, j'ai une musique pour Jacques, écoutez.
Oula.
Faites entrer l'accusé. Jacques Vendroux qui a fait un sans faute, qui nous avait pronostiqué la défaite de Paris à Barcelone, qui nous avait pronostiqué la victoire du PSG à Dortmund et qui nous avait pronostiqué la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. 15 Coupes du Monde, 70 ans de carrière. Du haut de ces monuments, nous contemple des millions de matchs de football. Et il n'est pas foutu de nous donner un bon résultat. Et Jacques, il est là.
Non, là, il me fait beaucoup de peine. Là.
Jacques,
là, on voit son image, il me fait beaucoup de peine.
Jacques, franchement.
Jacques, non, mais. Je préfère garder mes réponses tout à l'heure.
Oula.
En plein débat.
Oui, voilà.
Parce que là, là, vous allez trop, trop loin.
Bah, s'il y a bien une émission à écouter aujourd'hui, c'est le clash. Jacques Vendroux.
Je suis bien d'accord.
On a beaucoup de messages de plainte hein, contre Jacques.
Bah, évidemment, pas, voilà, mais en même temps,
non,
c'est.
Non, mais prenez-en soin un petit peu de notre Jacques Vendroux
Jacques,
national.
Mais c'est un monument national. D'ailleurs, il devrait être ce 8 mai aux côtés du président Macron pour célébrer ce moment. D'abord, vous appartenez à une famille illustre. Quand même en 45, et puisque votre ami Thierry Roland vous appelait Jacques-Philippe de Gaulle, je le rappelle, et que
non, mais il raconte tout. Non, mais
je raconte tout.
On peut plus avoir de vie privée, de vie.
Une famille, vous êtes un des rares ici qui a vu le Charles de Gaulle en pyjama à la. À la Boissière.
Profitez, puisqu'il va vous attaquer après. Hein.
Non.
Profitez.
Non, c'est vrai, ça c'est vrai.
C'est vrai, vous l'avez vu, vous êtes le neveu de Yvonne Vendroux.
Mon grand-père est le frère de Madame de Gaulle.